C'était une chaude après-midi d'été, le stade d'enrichement était rempli à ras-bord, vibrant d'une énergie palpable. Les deux équipes, rivales de longue date, s'affrontaient pour asseoir la suprématie des royaumes. Nous étions à la 85e minute de la finale du championnat. Le Royaume de France jouait à 10 contre 11. Suite à un malheureux contact entre l'épée de Jean-Michel Mazur et l'abdomen de son adversaire, le solide défenseur français était habitué à résoudre tous les conflits par la violence. Le score était de 2 à 2. Et l'atmosphère était électrique. Les supporters retenaient leur souffle, conscients que chaque seconde comptait. Le parcours, pour en arriver là, avait été semé d'embûches. L'équipe coachée par Henri IV avait tout d'abord rencontré les royaumes d'Espagne, du Portugal et le Saint-Empire romain germanique en phase de poule. Puis, le royaume de Hongrie, en huitième. Celui de Pologne, en quart, et le redoutable royaume de Suède, conduit par Ibra, le conquérant en demi. Ainsi, le Royaume de France allait affronter celui d'Angleterre et d'Irlande en finale, tenant du titre pour la victoire finale. Quelques années auparavant, c'était Maximilien de Béthune, dit le duc de Sully, qui avait introduit le football au sein de l'État, sport découvert lors d'un voyage diplomatique en Angleterre, justement. Le duc avait donc constitué une équipe avec l'appui du roi, de robustes athlètes. L'on comptait en outre quelques fins stratèges et experts en simulation. Jacques Bourbon courait aussi vite qu'il buvait ses chopes de bière. Marcel Fudechêne était un défenseur en béton, mais à vrai dire, plutôt en bois. Frère Clément de la Passe avait appris ses dribbles dans les évangiles, Louis Le Chat détourné, dont on ne savait jamais d'où il sortait pour marquer ses buts. Thibaut Laruse, passé maître en faute discrète et plongeon théâtraux. Antoine de la Chèvre, au jeu de jambes suspect, mais efficace. Père Augustin, sans péché, dont la précision était divine, et enfin le meilleur, Guillaume le Charron, qui restait ancré comme une charrette, et dont le coup de tête faisait trembler toutes les défenses. Avec cette équipe, nous devrions bouter les Anglais de la compétition sans difficulté, arguait le roi lors de sa dernière causerie. Lui qui s'était autoproclamé président de la fédération, entraîneur, manager et même conseiller du président, nous étions donc à la 85e quand le roi Henri IV décidait de faire l'ultime changement en se choisissant pour rentrer sur le terrain à la place de Théobald du Couffrand. L'incompréhension était totale mais discrète. Le temps réglementaire touchait à sa fin, mais l'intensité du match ne faiblissait pas. Le chronomètre affichait 96 minutes lorsque l'arbitre annonçait une dernière minute de temps additionnel. Dans une ultime offensive, frère Clément récupérait le ballon au milieu de terrain, avec une série de passes rapides et précises. Il progressait vers la surface des adversaires, l'ailier gauche, rapide comme la lumière, s'échappait sur son côté avant d'envoyer un centre parfait dans la boîte. Au cœur de la mêlée, Gaspard de la Flibuste, qui jouait des coups d'aider sabots, se jetait sur le ballon avec toute sa détermination. Il faut savoir qu'à cette époque, les règles étaient un peu floues et que les matchs se terminaient souvent en bagarre générale. D'un tir puissant du pied droit, il envoyait le cuir au fond des filets à la 97e minute. Le stade explosait de joie, cris de bonheur, chants et applaudissements résonnaient dans toute l'enceinte et bien au-delà.